Il aura donc fallu du temps à l'opinion publique française pour ouvrir les yeux et s'émouvoir de la situation en Érythrée. Il aura fallu du temps et une conjonction d'événements tragiques, l'afflux massif de migrants en Méditerranée et l'hécatombe du printemps dernier, l'expulsion du campement de près de 400 personnes début juin sous la ligne de métro à La Chapelle à Paris, quelques jours tout juste d'ailleurs, à peine après que le documentaire Voyage en Barbarie ne gagne le prix Albert Londres.
I feel like I just came out of a black hole.
J'ai l'impression d'être à peine sorti d'un trou noir.
A few months ago, I was chained in a basement.
Il y a quelques mois, j'étais enchaîné dans une cave.
Many are still out there.
Beaucoup sont encore là-bas.
And I know I was lucky.
Et je sais que j'ai eu de la chance.
I just arrived in Sweden, illegally.
Je viens d'arriver en Suède illégalement.
It's all white here.
Tout est blanc ici.
I never really planned to come to Europe.
Je n'ai jamais vraiment prévu de venir en Europe.
It's a story.
C'est une histoire de circonstances.
Life's all about circumstances.
La vie n'est faite que de circonstances.
My name is Robel, and I'm 24 years old.
Mon nom est Robel et j'ai 24 ans.
I just wanted to run away from a dictatorship.
Je voulais juste m'enfuir d'une dictature,
my country,
mon pays,
Eritrea.
L'Érythrée.
Voilà, extrait du tout début de ce très très beau documentaire Voyage en Barbarie, documentaire signé Delphine Deloget et Cécile Allegra qui est avec nous. Bonjour Cécile Allegra.
Bonjour.
Ce documentaire donc produit par Memento que l'on peut voir en intégralité sur le site de la chaîne Public Sénat et que vous pourrez retrouver le lien qu'on vous mettra évidemment sur le site des Matins d'été. Nous sommes également en compagnie de Franck Guéry, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférences à l'Institut d'études politiques à Paris, co-auteur avec Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemer de ce livre, L'Érythrée, un naufrage totalitaire, qui est publié aux presses universitaires de France. Alors je parlais à l'instant d'une conjonction d'événements, il y a aussi à peu près à la même époque, début juin, quelques jours après l'expulsion du camp de La Chapelle, un rapport de l'ONU qui a été publié, un rapport qui parle, je cite, de l'une des crises humanitaires les moins documenté au monde, qui évoque même la possibilité, la vraisemblance plutôt de crimes contre l'humanité en Érythrée. Pourtant, cette situation, la situation politique, humanitaire, sociale, ne date pas d'hier. Comment est-ce que vous expliquez l'un et l'autre cette prise de conscience si tardive ? Cécile Allegra.
Non, l'ONU a déjà publié des rapports où, notamment en 2011, la rapporteure spéciale de l'ONU, Sheila Kitarout, avait indiqué qu'il y avait, à l'époque, elle ne mentionnait pas crime contre l'humanité, mais elle avait par exemple clairement indiqué que celui qui était alors le gouverneur de la province de l'Ouest, Teklay Manjous, aurait été une tête pensante de ce trafic. À une époque où d'ailleurs on connaissait très très mal ce trafic encore, puisqu'il a commencé, je vous le rappelle, en 2009. Et donc elle désignait directement un Érythréen proche de l'état-major d'Afewerki comme un maître d'œuvre, un concepteur du trafic.
Ce trafic, il faut préciser que donc, c'est le centre de votre documentaire, le trafic d'êtres humains entre l'Érythrée jusque vers le Sinaï, après des enlèvements dans les camps au Soudan notamment. Franck Guéry, cette prise de conscience tardive, ou en tout cas au moins pour l'opinion publique française, vous l'expliquez comment ?
On peut peut-être penser que c'est parce qu'il y a eu des événements en France récemment qu'on s'est intéressé finalement à la tragédie que vit le peuple érythréen. Et c'était la partie émergée locale finalement d'un exode global. Et finalement, ça nous a amené à nous intéresser, même s'il y avait déjà des Amnesty International, Human Rights Watch, etc. Il y avait déjà des documents, des informations. Mais c'est vrai qu'en France, il y avait quelques personnes qui avaient alerté l'opinion, comme Léonard Vincent qui a publié un roman, Les Érythréens. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était vraiment développé. Et c'est maintenant qu'il y a une prise de conscience quelque part.
On parlait du trafic. Je vous donnais juste quelques chiffres pour qu'on comprenne un peu l'état de la population érythréenne et la dureté du régime en place. On parle, donc, puisqu'on parlait de votre trafic, Cécile Allegra, 50 000 Érythréens qui ont fui et qui ont été torturés dans le Sinaï. 12 000 en seraient morts. Entre 5 et 10 000 personnes, des chiffres difficiles à estimer, qui quittent l'Érythrée tous les mois, selon les Nations Unies. Les Érythréens, qui sont la deuxième population à risquer la mort en Méditerranée après les Syriens. Un tiers des jeunes qui fuient, qui sont kidnappés, d'après votre documentaire. L'Érythrée est encore le dernier pays au classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Il faut dire donc que l'Érythrée n'est pas juste un autre régime autoritaire, c'est beaucoup plus dur que ça, c'est l'un des rares régimes totalitaires, la Corée du Nord de l'Afrique, on a la tradition de dire, totalitaire, c'est d'ailleurs le terme que vous expliquez dans l'introduction de votre livre, Franck Gouret.
Oui, tout à fait, avec Jean-Baptiste Janssen Villemer. Donc on a publié ce livre, Érythrée, un naufrage totalitaire, comme un peu une étude de cas sur quelle est la nature de ce régime et comment, au XXIe siècle et à la fin du XXe siècle, on a pu en arriver là, comment on a pu dériver progressivement. Et la nature totalitaire, en fait, ça veut dire que par rapport à un autoritarisme qui s'attaque uniquement aux opposants politiques, ce régime va plus loin. Il peut s'attaquer à l'ensemble de sa population. Et en fait, un totalitarisme, il a l'unicité comme fin, c'est-à-dire qu'il veut fusionner tout dans l'État, hein, donc fusion de tous les pouvoirs, fusion du secteur privé dans le secteur public, et puis la terreur comme moyen, c'est-à-dire qu'on a des arrestations, des rafles la nuit, et donc personne ne peut être en sécurité, parce qu'il y a aussi une délation considérable, donc tout le monde a peur. Il faut souligner par exemple qu'il est interdit aussi de se réunir à plus de 7 personnes. Et le point clé en fait dans ce régime, c'est le service national à durée indéfinie. Parce que là, ça veut dire que tous les jeunes n'ont plus de perspective, plus d'avenir, c'est sous-payé, ça
ils
ne permet pas
de... Ils sont recrutés par l'armée, ils restent à vie.
C'est service national, civil ou militaire, mais une fois qu'on est dedans, on est sous-payé, on ne peut pas avoir de famille, en tout cas pas la financer, donc on dépend un peu de la diaspora. Si on a la chance d'en avoir une, il n'y a plus donc d'espoir. Et c'est ça qui explique la nature.
Et c'est ce qui explique qu'ils sont très jeunes.
Oui.
Ouais. C'est ce qui explique qu'on ait autant de mineurs, notamment dans les jeunes qui partent, parce qu'ils partent avant d'être appelés. Il faut rappeler que, mais ça, Franck Gouret l'explique très bien dans son livre, que tout le secondaire est militarisé déjà. Et donc, quand ils fuient, c'est véritablement qu'il n'y a aucune autre issue. Il faut bien comprendre ça, parce que depuis que le documentaire est sorti, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui disaient, mais quand même, s'ils savent qu'il y a un pareil trafic avec des tortionnaires aussi sauvages, pourquoi se lance-t-il dans le vide ? Eh bien, parce qu'il n'y a absolument aucun autre choix. Donc, il fuit, il traverse la frontière. Et là, il faut bien comprendre aussi que ce ne sont plus eux qui remontent. Ce sont des trafiquants qui viennent les kidnapper juste après la frontière ou bien aux abords immédiats des camps de réfugiés qui se trouvent au Soudan. Mais il y a des kidnappings aussi en Éthiopie. Et ensuite, ils les déportent dans des zones désertiques. Alors, ça a été le Sinaï pendant quelques années. Maintenant, ça se développe en Libye, au Soudan, au Yémen. Donc partout où il y a un désert, une guerre civile ou une dictature, un endroit qui est un petit peu hors de contrôle, il y a des camps de torture qui s'installent et qui prospèrent sur le départ de ces gens qui sont des évadés.
Ce que vous décrivez là, Cécile Allégra, l'un des témoins que vous avez rencontré, un Érythréen en exil en Suède, le raconte lui aussi dans les termes qu'on va écouter.
That morning with five others, we went out to get some firewood.
Ce matin-là, avec cinq autres réfugiés, on est parti chercher du bois pour le feu. Et tout à coup, trois pick-up Toyota sont arrivés. Ils ont roulé parallèlement à moi et m'ont percuté avec la portière et je suis tombé. Et puis ils ont commencé à me battre avec des bâtons et tout. Je me suis enfui, mais ils ont recommencé à me rentrer dedans jusqu'à ce qu'on arrive près du lieu où je dormais, dans le camp de réfugiés. Mais après être tombé pour la quatrième ou cinquième fois, j'étais trop fatigué pour pouvoir bouger. Alors ils m'ont juste jeté à l'arrière du pick-up et ils se sont assis sur moi pour que je n'essaye pas de sauter de la voiture. Et dès qu'on est sorti du pick-up, on a été pris par différents trafiquants qui nous ont triés comme du bétail. Je pouvais les entendre parler de notre valeur, qui prendrait lequel.
All of us were scared.
On était tous effrayés.
Some of us knew what was coming.
Certains savaient ce qui allait arriver.
Some did not.
D'autres non.
Maybe it would have been better not to know what was coming, actually.
Peut-être qu'il aurait mieux valu ne pas savoir, en fait.
So they took us to about 12 of us.
Et puis ils ont pris 12 d'entre nous et ils nous ont amenés dans un
camp.
Voilà le témoignage de Philémon, qui est l'un des témoins centraux de votre documentaire, hein, Voyage en Barbarie, Cécile Allégra. Comment est-ce que vous avez été sensibilisé déjà à cette question du trafic dans le Sinaï? Et surtout aussi, comment est-ce que vous avez réussi à rencontrer ces témoins qui témoignent à visage découvert, ce qui est, même en diaspora, très dangereux pour les ressortissants érythréens, comme il l'explique dans votre documentaire d'ailleurs?
Alors avec Delphine, on avait eu des occasions, notamment Delphine qui a beaucoup travaillé sur Calais, des témoignages d'Érythréens qui racontaient des histoires de torture absolument énormes. Et donc on s'est mis à travailler sur cette question parce que ça revenait de plus en plus fréquemment dans les récits qui étaient rapportés. Et on s'est dit, il faut qu'on voit ce qui se passe. Ensuite, il a fallu avoir la confiance de la communauté érythréenne, ce qui n'est pas une chose facile parce que c'est une communauté persécutée, donc très paranoïaque, qui fait très attention aux personnes avec qui elle parle. S'il y a des infiltrés, des ambassades du régime qui travaillent un petit peu partout dans le monde et qui repèrent les opposants ou les déserteurs. Et je vous rappelle que toute personne qui migre, entre guillemets, si on veut vraiment appeler ça une migration, est déserteur.
Et dont les familles sont menacées sur place, familles, ce qui est expliqué dans votre documentaire.
Et donc ça a été très compliqué, en fait, tout simplement parce qu'il n'avait jamais parlé. Il n'avait jamais parlé avant en filmant, il n'a pas parlé de manière à visage découvert avant, et il n'a pas parlé après. Donc c'était un moment un peu unique comme ça. Et au Caire aussi, ils étaient traqués, donc il a fallu vraiment... ils avaient très peur d'être repris par les tortionnaires, il a fallu passer beaucoup de temps avec eux, les rassurer, et surtout, on a essayé de leur donner une idée de la portée historique de leur témoignage, et de leur dire, voilà, personne n'a jamais parlé jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que vous êtes encore là, c'est parce que le monde a besoin de savoir ce qui se passe, et donc ils nous ont livré un témoignage qui a valeur de pièce à conviction. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on essaye de rassembler des preuves, et il y a des gens en ce moment qui interviewent des survivants, pour construire un dossier pour crimes contre l'humanité, pour aider la communauté érythréenne à se faire justice.
Vous avez initié déjà des démarches auprès de la Cour pénale internationale, vous savez...
Non, en fait, on est en phase de construction du dossier. Il y a différentes manières, en fait, de procéder. Vous avez des familles qui sont rançonnées sur le territoire français. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu l'appel d'une personne, une Éthiopienne, dont le frère s'est fait enlever et est détenu actuellement dans un camp en Libye. Il se trouve que cette personne est naturalisée française. Donc, on a un peu le premier cas de Français racketés par des trafiquants dans le désert. Et donc, il y a quelque chose qui peut être fait au niveau de la France, mais aussi au niveau de la communauté internationale. Et on essaye de convaincre le Parlement de lancer une commission d'enquête, à tout du moins, parce que je vous rappelle que, donc, vous l'avez bien dit au début, il y a 12 000 morts dans le désert du Sinaï, mais on ne sait pas combien il y en a dans le désert libyen ni dans le désert soudanais. Et les fosses communes dans le désert, ça ne dure pas très longtemps. Il faut quand même y aller voir et mesurer l'ampleur du phénomène.
Parce qu'il faut préciser comment ce trafic et ces tortures s'organisent. Donc vous l'expliquez, ces jeunes gens sont enlevés dans les camps, à proximité du camp, comme l'expliquait Philémon, dans votre documentaire, puis ils sont amenés dans des maisons de torture, et là, on appelle les familles pour les rançonner en Érythrée.
En direct au téléphone.
En direct au téléphone.
Ils sont torturés en direct au téléphone avec la famille à l'autre bout du fil. Parfois, elle est en Érythrée. Parfois, c'est directement la diaspora qui est appelée et qui doit réunir très rapidement la rançon. Et là, d'ailleurs, c'est l'autre problématique européenne. Il y a des intermédiaires en Europe qui rassemblent l'argent et qui, donc, à ce titre, peuvent être poursuivis par la justice européenne de n'importe quel pays.
Et c'est l'une des pistes qu'évoque l'ONU. Il est envisager, on va le dire comme ça pour le moment puisque ce n'est pas prouvé, que ces tortures, que ces rançons soient même orchestrées par le pouvoir érythréen.
Alors c'est une hypothèse qui est assez vertigineuse en fait, puisque nous c'est une question qu'on s'est posée. On s'est posé la question de savoir s'il y avait un cadre idéologique à ce trafic, s'il y avait un ordre qui avait été donné pour qu'ils soient torturés à ce point. Il y avait des choses qui amenaient à penser ça, c'est-à-dire notamment les mutilations génitales. Puisque quand ils sont torturés, il faut bien comprendre, toutes les heures, violer toutes les heures, parfois contraindre de s'entre-violer. Donc c'est des choses très... voilà. Si cette hypothèse était vérifiée, ça ferait du cas du trafic d'Érythréens dans le Sinaï un premier cas de sous-traitance, disons, de la torture hors les murs, hors des frontières du pays. Mais ça ne semble pas être une hypothèse qui se confirme pour l'instant. On a l'impression que c'est plutôt une question d'opportunisme. Ils avaient tellement de gens qui partaient, qu'ils n'allaient pas tirer sur tout le monde, sinon la frontière se serait transformé en gigantesque fosse commune. Du coup, tant qu'à les laisser partir, autant vaut faire de l'argent avec. D'où notre responsabilité en Europe, hyper importante. Leur propose-t-on un suivi adapté? Est-ce qu'on a mesuré les séquelles voilà, ça, c'est la responsabilité de l'Europe.
On reviendra tout à l'heure justement sur l'accueil des Érythréens et les problèmes que ça pose en termes notamment de statut, de demandeurs d'asile, de réfugiés, de migrants économiques.
Mais c'est des survivants de camp.
C'est ça.
Il faut bien faire comprendre ça. C'est des survivants de camp.
Je voudrais dire un mot avant de redonner la parole à Franck Guéry aussi sur la définition un peu de ce qu'est aujourd'hui ce pouvoir totalitaire en Érythrée, le pouvoir d'Isaias Afewerki, sur un témoignage qui est quand même vraiment très très fort dans votre documentaire. Vous avez réussi à rencontrer un trafiquant, un tortionnaire, ouais. qui parle à visage couvert. Mmh. Comment est-ce que vous avez eu accès à lui? Expliquez-nous un peu ce qu'il dit en quelques mots, parce que le ton qu'il emploie est extrêmement glaçant. Enfin.
Mais c'est glaçant pour nous, mais pas du tout pour lui. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Parce qu'avec Delphine, enfin, d'abord, on a essayé de sécuriser notre entrée dans le Sinaï. Rien n'était garanti. Le Sinaï, je vous rappelle, c'est interdit d'accès. Les journalistes ne peuvent pas y aller. Il y a une guerre civile. C'est bombardé tous les jours. Donc, c'est pas du tout évident. D'ailleurs, il y a eu un ralentissement du trafic. Évidemment, en se faisant bombarder tous les jours, ils prennent moins de risques commerciaux, effectivement, comme ils disent. Le tortionnaire qu'on a rencontré, il a voulu parler justement parce que il y avait ces bombardements quotidiens et qu'il avait envie aussi de dire pourquoi, quelque part, pas forcément de se justifier, mais d'expliquer avec ses mots, pour lui, ce qu'était ce trafic. Et ce qui était, dans vos termes, glaçant, mais pour lui, totalement normal, c'est que c'était un trafic comme un autre.
Il parle vraiment comme un dirigeant de PME, quasiment.
Oui, non,
mais... C'est un petit commerce.
Oui, après, il rappelle que le Sinaï, c'est une zone tampon, démilitarisée, que les habitants du Sinaï n'ont pas le droit à avoir une carte d'identité, donc ils ne peuvent pas se déplacer, et ils n'ont pas d'infrastructure, ça n'a pas été développé exprès, et que donc, ils font ce qu'ils peuvent, et on sait qu'ils gèrent des tunnels à Gaza. Après, évidemment, ça ne justifie pas le fait qu'on torture des êtres humains à ce point, mais lui avait besoin de le dire, et c'est pour ça qu'il nous a accordé cet entretien. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça vous explique la banalité du mal, mais aussi la facilité qu'il y aurait à ce que ça se multiplie dans plusieurs points en Afrique avec le même cynisme que nous on juge cynique, mais qui pour eux est de la survie, vous voyez.
Ce qui est le cas, ce que vous laissez entendre, hein, c'est que ces bombardements actuels dans la zone du Sinaï, a priori, elles ne vont faire pour le moment que déplacer le problème.
C'est déjà le cas. Oui. Les bombardements ont déplacé le problème. C'est-à-dire que la méthode trafic et torture contre rançon a été exportée dans plusieurs pays limitrophes, donc Soudan, Libye, et Yémen, avec beaucoup de succès commercial. C'est-à-dire que vraiment, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quel est le lien, notamment avec les cellules djihadistes, puisque c'est ce que dit l'Égypte. L'Égypte dit, mais nous bombardons les chefs de cellules djihadistes. Il se trouve que parfois, ce sont des chefs trafiquants qui ont, d'ailleurs, et que dans les bombardements, il y a des casualties, il y a des morts qui sont les déportés, les otages qui sont détenus, trafiqués et torturés. La question ne se posera pas en Libye, il n'y aura pas forcément une opération similaire qui sera menée, c'est encore un autre problème. Mais ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, enfin, pardonnez-moi, passez-moi l'expression, maintenant, il y a pratiquement, il y a des camps de torture dont on connaît l'existence, mais il y a aussi des pré-camps. C'est-à-dire qu'au lieu de les déporter directement dans les camps où ils vont se faire torturer, on va les faire passer par des sas, où là, on va leur soutirer de l'argent en leur disant « Et si vous ne payez pas, il y a encore pire qui vous attend. » Et du coup, vraiment, l'autre rive de la Méditerranée est en train de se transformer, doucement mais sûrement, en une antichambre de la torture.
On parlait en propos liminaire de cette émission de la nature totalitaire du régime érythréen d'Isaias Afewerki qui a pris le pouvoir il y a longtemps, qui est issu de la révolution maoïste. Vous dites, ce qui est très intéressant aussi Franck Gouéry, c'est que ce qui rend ce régime aussi terrible, c'est que ça n'est pas simplement, pourrait-on dire, un régime totalitaire, mais un régime totalitaire failli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le totalitarisme, c'est pour ça que parfois la question totalitaire est un peu cantonnée entre un cantonnement historique et une exagération où on parle de totalitarisme de Daesh, du marché, etc. Donc nous, on essaye de montrer que ce concept peut être opératoire. On a tous en tête peut-être le totalitarisme de l'Allemagne nazie. L'Érythrée n'est pas arrivée à ce niveau-là. Néanmoins, ce qu'on développe, c'est que l'Allemagne non plus n'était pas un modèle idéal de totalitarisme, parce qu'on ne peut pas, dans l'humanité, arriver à ce modèle total. L'espèce humaine ne le permet pas. Mais néanmoins, c'est un processus. Et dans ce processus, on qualifie le totalitarisme érythréen de totalitarisme failli. Il est doublement failli, c'est parce qu'il n'arrive pas déjà à assurer le scellement total du pays pour plusieurs raisons. Parce que géographiquement, il a des frontières, 4000 km de frontières. Il n'y arrive pas parce que économiquement, c'est une faillite totale. Donc, il n'a pas les moyens de financer totalement le scellement. Il n'y arrive pas parce que ses voisins n'ont pas intérêt à fermer la frontière, contrairement à la Corée du Nord, par exemple.
Le Soudan, l'Éthiopie.
Alors, avec l'Éthiopie, c'est fermé, mais avec le Soudan, ça n'est pas. Il n'y est pas aussi parce qu'on est au 21e siècle. Il y a la mondialisation, qu'il a besoin de la diaspora pour se financer puisqu'il n'est pas économique. Indépendant, donc les idées...
Dixième diaspora au monde, 20e rang des états générateurs de flux de réfugiés.
Donc il y a des flux d'idées, de circulation. Il y a un gros compte SwissLeaks, effectivement, de 700 millions d'euros à peu près, ce qui représente à peu près 50% du PIB. On ne sait pas à qui il appartient, mais ça pose question.
À deux chauffeurs.
Et puis, sur la nature faillie du totalitarisme, il y a une question aussi d'échelle. C'est un petit pays, il y a une question d'incompétence, et on le voit notamment à la réponse du rapport de la commission d'enquête de l'ONU, où ils ont copié-collé un peu ce que la Corée du Nord disait. Donc tout ça, le délitement de l'armée aussi, qui est voulu par le pouvoir, parce que l'armée peut être une menace, et donc il y a un équilibre dans ces régimes, et un équilibre de la terreur.
Cécile Aigrat.
À chaque fois que le film est montré, on a en général trois qu'on appelle des infiltrés, des ambassades, qui sont présents dans la salle, et on les voit, et ils sont là pour monopoliser la parole, pour empêcher le débat public, et en même temps, ils défendent vraiment, quand ils prennent la parole, ils défendent systématiquement le fait que c'est un leader révolutionnaire qui a libéré l'Érythrée, voilà, et donc effectivement, ça se retrouve, et ça explique pourquoi les Érythréens n'ont pas parlé de ce trafic terrible, parce qu'ils savent, et pourquoi encore aujourd'hui, quand on fait des événements publics, on a beaucoup de mal à faire venir même des gens qui nous font confiance à nous, parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver confrontés à des sbires du régime qui vont les repérer.
Un des journalistes, un ex-journaliste vedette de la télévision érythréenne, est aujourd'hui basé à Paris. Il a monté une web radio qui s'appelle Radio Irena, dont l'un des membres fait partie qui est en Suède, qui s'appelle Meron Estefanos, qui donne la parole, qui appelle les gens qui sont dans les camps de torture. Vous le montrez dans votre...
C'est eux qui l'appellent.
Voilà, c'est eux qui l'appellent, ouais. Mais elle peut dialoguer étonnamment avec eux en se faisant passer pour la famille. Ouais. Voilà, donc ce journaliste qui est établi à Paris, s'appelle Binyam Simon. Et justement, dans ce pays si fermé, dont on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur, bien lui évoque ce qu'est aujourd'hui la vie en Érythrée au micro d'Amélie Perrault.
C'est horrible. On ne peut pas l'expliquer. La vie de tous les jours en Érythrée est devenue impossible. La nourriture de base, par exemple, vous l'avez par l'administration avec des tickets. Il n'y a pas assez à manger. Les gens ne peuvent pas aller au travail, s'éduquer, mener leur vie. C'est pour ça qu'autant de gens quittent le pays. Pour un journaliste, c'est encore autre chose. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Érythrée, mais c'est plus compliqué que ça. Déjà, vous travaillez pour le gouvernement. Ça fait très peur, car vous ne pouvez pas savoir qui est de votre côté ou pas. Vous passez chaque jour dans la peur. Vous ne considérez pas ça comme un travail. Vous voyez ça comme quelque chose que vous devez faire pour ne pas aller en prison. Votre chef vous donne un travail à faire, vous le terminez, vous le rendez, et s'il y a la moindre erreur, même une erreur honnête, ça devient un gros problème politique.
Voilà, Binyam Simon, le fondateur de cette radio Irena, web radio pour la communauté érythréenne, qui répondait à Amélie Perrault. Un dernier mot pour conclure cette première partie, puisqu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on sait dans quel état est aujourd'hui le pouvoir politique érythréen? Est-ce que le pouvoir est encore tenu? Est-ce que le pouvoir est en train de mourir, comme vous le suggérez, Franck Gouéret?
Il y a un état de déliquescence. Il y a eu une tentative de coup d'État ratée en 2013. Néanmoins, les agents du changement ne sont pas nombreux, parce que la population est apathique. Enfin, elle est soumise au totalitarisme, donc c'est très compliqué. Le régime a de grandes difficultés économiques. C'est un désastre économique. Donc il pourrait s'écrouler, mais la question, c'est quand?